Bonjour, vous écoutez le Café du Centre, le podcast où on se rassemble pour parler d'actu et d'enjeux de société. Installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et laissez-vous emporter par une génération engagée.
Oui, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais accueillir Cédric Mailleux. C'est quelqu'un que je connais car il a en fait intervenu dans le cadre d'un mémoire que j'ai fait, dont on va parler de la problématique un peu plus tard. Donc, est-ce que Cédric, tu peux te présenter pour que les gens sachent un peu qui tu es?
Avec plaisir, Joseph. Donc, je m'appelle Cédric Mailleux, j'ai 40 ans et donc je suis scarbécois depuis toujours, bruxellois depuis toujours. J'adore Bruxelles, j'adore Scarbec. Et puis dans la vie, je suis depuis maintenant quelques années directeur général d'une société de logement public ici à Bruxelles, et qui est organisée d'une manière un peu particulière en coopérative de locataires. Donc on a beaucoup de place qui est donnée aux locataires et on essaye vraiment de faire en sorte que nos locataires puissent être acteurs de leur immeuble, de leur quartier et devenir vraiment avec un engagement citoyen très important.
Je te remercie Cédric pour la présentation. Donc voilà, on va vraiment parler aujourd'hui de la thématique du logement. Moi, c'est pour ça que je t'ai invité. Parce que, vu ta fonction et vu ce qui se passe au niveau de la région bruxelloise, je voulais un peu qu'on échange là-dessus. Et c'est vrai que comme en plus tu m'as aidé sur mon mémoire sur la problématique du logement, c'est pour ça que j'ai pensé directement à toi pour avoir cette discussion. Et donc moi, en deux mots, donc je m'appelle Joseph Maux. Je suis de la commune de Woluwe-Saint-Lambert. Je travaille comme fonctionnaire au niveau communal. Et voilà, je suis chez Génération Engagée maintenant depuis 8 ans. Donc depuis peu, je ne suis plus Génération Engagée car j'ai 36 ans. Mais voilà, c'est toujours un peu top de pouvoir passer dans les locaux pour pouvoir discuter un peu des thématiques politiques. Donc au niveau de l'actualité, on entend beaucoup tous les problèmes de logement. Tout ce que les familles bruxelloises vivent, donc que ce soit en termes de difficultés, en termes de mal logement, en termes du coût du logement aussi. Donc j'aimerais un peu savoir, comme toi tu es dans la fonction en tant que directeur de société de logement, qu'est-ce que le concept de logement, notamment le logement social, qu'est-ce que ça regroupe ?
Mais écoute, le droit au logement, il est fondamental. Il est inscrit dans la Constitution depuis plusieurs années. Et donc, il faut vraiment qu'on mette tout en œuvre au niveau des politiques publiques pour faire advenir ce droit au logement. Il y a énormément de familles qui sont mal logées, il y a énormément de sans-abri. Donc, il y a une série de réponses qui doivent pouvoir être données par les pouvoirs publics en cette matière-là. Je pense que d'abord, ce qui est important, c'est un foncier public qui appartienne au public. Et ça, c'est vraiment le rôle du logement social. Et donc ici, au niveau du logement social, il y a une nécessité de construire des nouveaux logements sociaux. Mais il y a aussi une nécessité de rénover les logements sociaux actuels. Il y a aujourd'hui plein de tours de logements sociaux qui sont dans un état qui n'est pas correct, dans un état qui doit être amélioré, notamment au niveau des performances énergétiques. Et donc il y a vraiment des budgets à débloquer pour pouvoir assurer cette rénovation. On doit être exemplaire. Il y a des objectifs qui sont mis par la région bruxelloise en 2040, en 2050, en termes de performance énergétique du bâtiment. Mais il faut d'abord aussi donner au logement social les moyens d'atteindre ces objectifs, voire d'être plus ambitieux. Il faut aussi pouvoir construire des nouveaux logements sociaux. Aujourd'hui, il y a environ un peu moins de 50 000 logements sociaux et il y a aussi 50 000 personnes qui sont sur la liste d'attente. Donc ça veut dire qu'il faudrait quasiment doubler le nombre de logements sociaux si on fait une simple règle mathématique. Moi encore ce matin, j'ai reçu sur Facebook quelqu'un qui m'a envoyé un message en me disant « Voilà, j'ai plusieurs enfants, je suis dans un petit appartement, il faut faire des travaux, le propriétaire m'a déjà envoyé plusieurs recommandés, je voudrais passer en urgence. » Mais malheureusement, cette situation-là, elle est vécue par tellement de monde qu'on ne peut plus en faire une urgence et une dérogation. Donc il y a vraiment quelque chose de fondamental qui doit être fait en termes de construction de nouveaux logements. Et je pense que ça rejoint aussi quelque part les débats qu'on peut avoir à Scarbec ou ailleurs sur la région bruxelloise sur les friches qui existent encore. Et quelque part, la discussion qui est toujours difficile avec les quartiers, avec l'ensemble des associations environnementales aussi, par rapport à préserver l'environnement et développer du logement privé et public. Et donc il faut toujours trouver un équilibre. Et moi je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut faire des grandes tours, parce que ça va être une catastrophe, et je ne suis pas de ceux non plus qui disent qu'il faut absolument sanctuariser ce genre de friches qui ne présentent pas toujours un réel intérêt environnemental. Il faut plutôt essayer de trouver des solutions qui permettent à la fois de loger des personnes et à la fois de les loger dans un cadre qui soit verdoyant, qui soit environnementalement intéressant. Et donc voilà, il faut trouver des équilibres dans ce dossier-là.
Très bien, merci Cédric, parce que là, à t'entendre, on comprend bien qu'il y a des problématiques, même, on va dire, une espèce de crise du logement. Donc, au-delà du logement social, comment le parc du logement privé pourrait être une piste pour les pouvoirs publics? Comment, dans le logement privé, on pourrait quand même avoir des solutions? Car tu nous as expliqué qu'il y a une forte demande dans le logement social, donc je pense qu'ils ne peuvent pas absorber les demandes, et en tout cas, pouvoir loger les personnes qu'ils demandent. Donc forcément, c'est le logement privé qui va venir. Et là, quelles sont les pistes concrètes où les pouvoirs publics puissent quand même influencer pour essayer d'aider les gens à pouvoir aller vers des logements abordables dans le logement privé?
Alors là, effectivement, les acteurs privés ont aussi leur rôle à jouer. Ce qui est possible, évidemment, c'est tout ce qui est créé autour des agences immobilières sociales. Donc des agences qui, en fait, vont louer un bien immobilier à un propriétaire privé et puis qui vont le sous-louer quelqu'un qui est dans les conditions du logement social ou un peu plus. Mais donc ça, c'est le genre, effectivement, de win-win qui est très intéressant. Je pense que ce qu'il faut surtout, c'est permettre que ces agences immobilières sociales aient un rôle plus important à jouer aussi dans la rénovation des biens. Parce que sur le logement privé, il y a aussi énormément de biens qui sont avec des problèmes de performance énergétique, avec des problèmes de vétusté. Et donc, si on veut vraiment aider le propriétaire privé à rénover son bien, il faut aussi que les agences immobilières sociales jouent un rôle là-dedans. Et ça peut aussi être quelque chose qui va inciter le propriétaire privé à donner son bien en agence immobilière sociale. Il y a déjà pas mal d'avantages qui existent aujourd'hui, mais effectivement, le fait que l'agence immobilière sociale puisse jouer un rôle dans cette rénovation, ça va aider beaucoup.
Par rapport à l'accès à la propriété, on sait que le premier frein pour un acquéreur, qu'il soit jeune ou moins jeune, c'est souvent l'apport. Et on a des opérateurs au niveau de Bruxelles, donc c'est ça, j'aimerais vraiment que tu expliques bien à tout le monde. C'est CityDev et Fonds du Logement, comment ces opérateurs-là peuvent quand même être des entités qui puissent aider les ménages bruxellois à pouvoir accéder, car on sait que les banques veulent souvent que les gens aient un apport, et on sait que suffisamment de Bruxellois n'ont pas suffisamment d'épargne de base pour accéder à leur premier logement. Donc le rôle de CityDev et de Fonds du Logement, comment il pourrait être pour toi à l'avenir dans ce sens-là de pouvoir stimuler et aider les Bruxellois à accéder à la propriété?
Alors le rôle du Fonds du Logement, c'est plutôt un rôle de soutien financier, c'est-à-dire c'est aider dans un crédit. Donc il y a ce rôle-là qui peut être fait par le Fonds du Logement et qui doit continuer à être fait. Au niveau de CityDev, là c'est plus de la vente de logements moyens. Donc CityDev construit des logements et puis les vend à des ménages de la classe moyenne. Et ces ménages doivent rester dedans un certain nombre d'années, mémoire 10 ans. Sinon, ils doivent rembourser à CityDev les avantages qu'ils ont pu avoir.
Juste un dernier sujet. Pour moi, c'est la question de la transition écologique, de la durabilité. On sait que le bâti est un point essentiel pour qu'on atteigne la neutralité carbone. À Bruxelles, on a un bâti qui est vieillissant. Donc, qu'est-ce que toi, tu penses comme solution? Est-ce qu'on ne ferait pas un grand plan de relance, peut-être un grand emprunt public pour permettre vraiment d'accélérer cette rénovation des bâtis, des logements sur Bruxelles, afin qu'on soit quand même une région qui soit un peu à la pointe de la durabilité et qu'on puisse faire notre transition écologique la plus rapidement possible?
Je pense qu'il faut soutenir les propriétaires. Après, il faut faire une distinction entre le propriétaire occupant et le propriétaire qui loue son bien. Donc, pour moi, le propriétaire occupant doit être vraiment soutenu de manière maximale parce que lui n'a pas de revenus qu'il ne retire de son bien. Donc, il faut pouvoir vraiment lui permettre d'avoir des prêts zéro. Il faut faciliter les choses parce qu'aujourd'hui, la rénovation à Bruxelles, c'est un parcours du combattant. Il y a d'abord le permis d'urbanisme avec parfois des autorités communales ou régionales qui ont des points de vue ou des avis ou des opinions ou des politiques en place qui sont très loin d'être celles de la performance énergétique. Il y a parfois des communes qui sont très axées sur l'aspect patrimonial des choses, sans avoir du tout de réflexion sur l'impact climatique, l'impact de la performance énergétique de ce qu'ils demandent en termes de valorisation du patrimoine. Et donc je pense qu'il faut vraiment que toutes les autorités communales et régionales aient bien en tête que la transition climatique est devenue une urgence et que toutes les politiques doivent être adaptées à ça, y compris les politiques urbanistiques. Ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de classer des bâtiments, mais ça veut dire qu'il faut une certaine souplesse au niveau des aspects patrimoniaux et que quand un bien n'est ni classé à l'inventaire, ni repris à l'inventaire, ben, il faut pouvoir faire primer les considérations écologiques, de performance énergétique sur les aspects patrimoniaux.
Moi, le sujet du logement, ça me touche car en tant que jeune travailleur sur Bruxelles, donc jusqu'à présent, je loue. Donc, je suis locataire. Donc, je vois vraiment un peu les inconvénients parce que j'aspire, mais dans les années futures, à pouvoir accéder à la propriété. Mais je remarque pourtant qu'il est difficile d'avoir quelque chose qui puisse nous plaire et qui varie sur des prix qui sont quand même actuellement assez onéreux. Donc moi, c'est un peu ça qui m'impacte. Donc ça fait que, voilà, en tant que jeune, ça ne me dérange pas pour l'instant. Mais c'est vrai que quand demain, je vais vouloir fonder une famille, je vais vouloir m'installer, voilà, j'aimerais vraiment à ce moment-là que ça puisse coïncider au moment où je puisse acheter parce que je pense que c'est quand même beaucoup plus intéressant de le faire quand on est plus jeune que plus tard dans ma vie.
Et alors, quels sont un peu les enseignements que toi, tu as tirés de ton mémoire ?
Oui, donc voilà, par rapport à mon mémoire que j'ai fait sur la politique du logement, quand on en avait discuté, les enseignements que j'ai vraiment tirés, c'est que déjà, c'est la complexité du système bruxellois. On a un système qui est extrêmement complexe parce qu'on a plusieurs acteurs, on a donc toute une complexité administrative qui est collée à ça. Et aussi, cette complexité, en fait, le point positif que j'ai compris, c'est d'où ça venait. Donc, ça vient vraiment des réformes de l'État, de l'histoire de notre pays, qui a fait que les différentes réformes de l'État ont eu des incidences sur la région bruxelloise. Et donc, en comprenant mieux l'origine donc de la complexité que nous vivons sur Bruxelles, donc là, on sait mieux appréhender, en fait, les enjeux. Parce que, au-delà d'un enjeu purement administratif, on voit qu'il y a vraiment des enjeux fiscaux, donc, parce que comme il y a des compétences fiscales à la fois fédérales et une partie qui est aussi aux mains des régions, donc, et aussi de comprendre qu'il y a véritablement, il y a une certaine clairvoyance, parce que dans mon mémoire, je faisais aussi une étude sur les commissions du logement. Tous les partis s'en rendent compte du problème. Tous font le même constat, le même diagnostic. Mais le problème qu'on a vraiment, j'ai l'impression, c'est qu'on n'arrive pas à mettre les moyens par rapport au défi qu'est le logement actuellement. Tout le monde se rend compte qu'il y a un grand problème, mais on ne dégage pas suffisamment de moyens. Et je pense que ça va être ça, les futures questions qui vont être posées dans les futurs mois hein, pour le prochain gouvernement bruxellois, c'est de véritablement mettre les moyens à la hauteur de l'enjeu par rapport au logement à Bruxelles. Donc Cédric, j'aimerais vraiment te découvrir en tant qu'homme, parce que comme tu défends et tu travailles dans le milieu du logement, donc j'imagine que tu es engagé politiquement. Donc j'aimerais un peu que tu nous parles de cette facette de ta vie professionnelle et par rapport à ça.
Bah écoute, j'ai été engagé effectivement dans plusieurs niveaux. Hein. Donc quand j'étais jeune, j'étais engagé dans les mouvements de jeunesse, même assez tard d'ailleurs, comme chef d'unité. Je suis engagé encore dans l'associatif, où je fais plusieurs mandats bénévoles de gestion associative. Et puis effectivement, je suis engagé en politique depuis des années. J'ai été militant de CDH à 20 ans. J'ai été chez les jeunes CDH, qui sont maintenant devenus génération engagée. Et donc je suis toujours aujourd'hui engagé chez les engagés. Et je suis conseiller communal depuis 5 ans à Schaerbeek.
Ok, très bien. Merci. Mais sinon, pour toi, dans les futurs mois, parce que comme tu sais, on est dans une année vraiment électorale, que ce soit le 9 juin et le 14 octobre, comment tu vois, pour porter ton combat sur le logement, qu'est-ce que tu vas mettre, on va dire, comme 3 priorités, même si je sais qu'il y en a plus, mais un peu 3 priorités où en tant que directeur et en tant que personne, en tant que citoyen, tu penses qu'il y a moyen sur ces 3 priorités de pouvoir améliorer améliorer le logement ici au niveau le logement ou d'autres thématiques, hein, c'est sur Bruxelles et ta commune.
Mais écoute, donc moi je fais de la politique à un niveau local et le niveau local peut avoir un impact sur le logement dans la négociation ou dans la, avec la, une bonne coordination avec la région. Mais le niveau local, en tant que tel, n'a pas énormément de leviers pour pouvoir activer le logement. Alors on peut le faire sur certaines choses. Par exemple, je te parlais là tantôt des questions urbanistiques, mais là, la commune a quand même plusieurs leviers urbanistiques pour essayer de faciliter la vie aux propriétaires occupants qui ont envie de pouvoir rénover leur bien ou qui ont acheté un bien pour le rénover, pour y habiter. Donc je pense que sur les questions urbanistiques, il y a des évolutions qui sont nécessaires et faire en sorte que les délais soient le plus courts possible, surtout pour les propriétaires occupants. Parce que chaque mois qui passe, c'est un mois où ces propriétaires qui ont acheté doivent à la fois payer le loyer actuel, doivent à la fois payer déjà le crédit. Et donc, c'est des moments qui sont très difficiles financièrement pour les familles. Donc je pense qu'il faut pouvoir vraiment, sur les leviers urbanistiques, jouer au niveau communal. Alors au niveau de Scarbec, on a aussi réussi il y a déjà plusieurs années à transférer les logements de la commune vers l'opérateur foyer scarbécois qui est l'opérateur de logement social principal de la commune de Scarbec. Je pense qu'il y a encore quelques logements communaux qui sont destinés aujourd'hui à des personnes âgées. Ces logements, ils doivent être rénovés. Il y a un grand immeuble qui doit être rénové. La commune n'a pas les moyens de faire ça. Je pense qu'elle doit transférer ça au foyer scarbécois pour pouvoir rénover justement ce bâtiment, cet immeuble de manière énergétiquement performant. Et puis, je pense aussi qu'il y a toujours ce soutien aux propriétaires occupants qui est nécessaire. Mais il faut aussi soutenir les locataires sociaux. Et donc je pense qu'il faut être innovant et il faut être dans une logique à Scarbec où on se dit on soutient le foyer scarbécois pour aider au maximum le foyer scarbécois dans ses rénovations en termes de performance, d'amélioration de la performance énergétique de ses bâtiments, mais aussi sur la question cruciale de l'énergie. Parce que l'opérateur de logement social peut être aussi un acteur important en matière énergétique. Il dispose d'un patrimoine immobilier. Il dispose donc de toitures. Donc sur ces toitures, on peut poser des panneaux photovoltaïques. On peut le faire soit sur fonds propres, soit avec des tiers investisseurs. Et donc c'est bon, évidemment, pour notre autonomie énergétique en général, puisque c'est de l'énergie qui est autoproduite, qui est produite localement. Mais c'est aussi bon pour le portefeuille des locataires sociaux, qui sont quand même les personnes socio-économiquement qui sont les plus défavorisées dans notre société. Et donc c'est bon aussi pour leurs finances. Et donc on peut imaginer que dans tous les logements, tous les immeubles du foyer scarbécois, on met des panneaux photovoltaïques qui permettent de produire de l'énergie et que soit que cette énergie serve pour les communs et donc diminuer en fait les charges des locataires, les charges communes des locataires, soit on peut aussi imaginer de créer des communautés d'énergie avec les locataires qui sont demandeurs pour aussi leur consommation propre et avec les voisins qui ne sont pas forcément des locataires sociaux mais qui seraient aussi intéressés à rentrer dans ce type de communauté d'énergie. Je pense vraiment qu'il y a là un gros enjeu. Nous, dans l'entreprise où je suis directeur, c'est vraiment un enjeu qu'on a pris à bras-le-corps, on a déjà mis beaucoup de panneaux photovoltaïques avec des financements régionaux, il y en a encore plein qui sont prévus, et surtout on a travaillé avec des tiers investisseurs, parce qu'on a une série de maisons unifamiliales avec des toitures qui ont été rénovées récemment, et donc dans toutes ces maisons, on est en train, avec des tiers investisseurs, de poser des panneaux photovoltaïques qui permettent à leurs locataires de consommer l'énergie qui est produite sur les toits. Et je pense que là-dessus aussi, la commune peut jouer un rôle pour activer, pour faciliter ce type d'opération.
Cédric, voilà, toi tu es vraiment quelqu'un de très réfléchi, mais j'aimerais savoir dans ton rôle de conseiller communal, comment tu fais pour défendre tes projets, défendre tes motions, parce que peut-être que là, avec les autres partis politiques, vous devez peut-être vous affronter ou peut-être négocier. Explique-nous un peu comment ça se passe concrètement quand tu es au conseil communal.
Bah, écoute, le rôle de conseiller communal, c'est d'avoir un rôle où tu dois être à l'écoute des citoyens. Donc tu dois être disponible et tu dois, quand tu es interpellé par des citoyens, tu dois vraiment essayer de comprendre la problématique, comprendre ce qu'ils vivent. Et peut-être parfois aussi aller sur le terrain pour voir avec eux ce qui se passe, ce qu'ils vivent, quand ils dénoncent quelque chose comme un problème de mobilité, etc. Nous, à Scarbec, on a eu énormément de difficultés avec le Good Move, parce que le Good Move a été mis en œuvre de manière dogmatique et sans respecter les principes qui avaient été en fait mis dans le Good Move régional. Dans le Good Move régional qui a été approuvé avec le gouvernement précédent, le principe de base, c'était de travailler sur des petites mailles, des petits quartiers, des quelques îlots maximum, et de le travailler avec une forte participation citoyenne. Or ici à Scarbeck, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu 3 mailles qui ont été déroulées en quelques mois et qui recouvraient quasiment la moitié du territoire. Donc on n'est plus sur du travail sur des micro-quartiers pour essayer d'améliorer la situation et d'apaiser les choses, mais on est sur quelque chose qui est très 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 grand et qui s'est fait d'ailleurs sans aucune consultation citoyenne. Et donc ils ont lancé ça en 2020 en plein Covid. Ils ont voulu marquer le coup, ils ont voulu montrer que voilà, écolo était là à la région, à la commune. Et donc ils ont fait les choses de manière très dogmatique, très vite, sans se préoccuper des questions urbanistiques, sans se préoccuper de la vie des citoyens, sans se préoccuper des conséquences, donc ça n'a pas été suffisamment réfléchi, sans se préoccuper des conséquences pour le quartier, pour les riverains, pour les commerçants. Et donc là, il y avait vraiment un gros problème. Et il y a eu une grosse colère citoyenne. Et donc ça, il faut pouvoir entendre cette colère citoyenne, il faut après pouvoir non pas l'alimenter, mais essayer de la canaliser et essayer de l'exprimer peut-être de manière plus posée, parce que quand on est conseiller communal et qu'on n'habite pas le quartier, on peut aussi, par rapport à la majorité, essayer d'avoir un ton plus posé pour essayer de faire comprendre, par l'argumentation aussi, que ce qui est dit par les habitants est réel et qu'il faut en tenir compte. À Scarbeck, on a été jusqu'à avoir 2 nuits de suite, où dans la 3e maille du Good Move, les gens ont démonté tout ce qui avait été installé. Démonté, hein. Donc c'était un soir de révolution, c'était 2 soirs de révolution. Ils ont tout démonté, dans une ambiance très bon enfant. D'ailleurs, j'ai été le 2e soir pour voir un peu comment ça se passait. En fait, c'était une ambiance très bon enfant, mais les gens ont tout démonté, et ils ont tout amené devant l'hôtel communal. 2 soirs de suite. Et c'est seulement là, alors que nous, au conseil communal, on le disait, parfois même on l'a crié, parce qu'on n'était pas entendu. C'est seulement là que le collège a dit « Ok, on arrête, on met sur pause ». Et c'est seulement là qu'ils se sont lancés dans une expérience qui était intéressante de participation citoyenne. Et ça, je crois que c'est vraiment l'avenir de la gouvernance à Bruxelles, et en général en Belgique et dans le monde, c'est de pouvoir travailler avec une participation citoyenne très poussée. Et donc là, il y a eu ce qu'on appelle un panel citoyen qui a été mis en place, avec un appel à candidature dans tout le quartier à toutes les personnes qui étaient dans les conditions, donc qui étaient inscrites au registre de la population qui avait plus de 18 ans. Et puis, il y a eu des candidatures, et puis il y a eu un tirage au sort, avec aussi un lissage socio-économique pour avoir vraiment des personnes de types différents, pour que toutes les personnalités du quartier soient représentées. Et puis, il y a eu un travail vraiment avec un facilitateur pour que ce groupe de citoyens puissent vraiment comprendre tous les enjeux des choix qui allaient devoir être faits en termes de mobilité. Donc ça, c'est un travail qui a été fait. Un des enseignements qu'on en tire, c'est que quand même, comme j'avais dit au début, en fait, la maille était trop grande. Et donc, si tu veux que les citoyens aient un avis, il faut pas faire des choses trop grandes, il faut rester vraiment dans leur quartier pour qu'ils aient un avis. Mais je pense que ça, c'était quelque chose qu'il aurait fallu faire dès le départ, qu'il aurait fallu faire dans les différentes mailles. Et donc, je pense que moi, si j'avais l'occasion de ne plus être dans l'opposition, mais d'être dans la majorité, c'est vraiment ce type d'action que je voudrais pouvoir mener. Je pense qu'il ne faut pas faire de changement en termes de mobilité, en termes d'espace public, sans avoir vraiment fait une réelle participation citoyenne avec le quartier.
Très bien. Mais je me permets, parce que c'est vrai que quand tu parles de participation citoyenne, c'est quelque chose vraiment qui me parle, car moi-même, dans ma commune, en tant qu'habitant, c'est un peu la chose où je m'investis. Donc, par exemple, je suis dans le conseil de la vie associative de ma commune, à Woluwe-Saint-Lambert. Donc, je représente une association dans laquelle je m'investis, qui s'appelle Vivre Heureux. Donc, c'est une association qui crée du lien un peu entre les jeunes et les moins jeunes. Et c'est vrai que c'est vraiment un axe pour moi qui est important, parce que moi, naturellement, hein, comme je m'investis déjà dans le milieu associatif et politique, donc pour moi, c'est j'envisage vraiment à pouvoir me présenter, mais parce que j'ai des valeurs qui correspondent aux engagés. Donc moi, c'est vraiment l'idée que j'ai eue, c'est que tout ce parcours que j'ai eu, parce que même professionnellement, je travaille en tant que fonctionnaire communal, je suis aussi dans le domaine du logement, donc je m'occupe de la permanence du logement. Et c'est de là que ça m'a ouvert les yeux sur la réalité de ce que vivaient nos concitoyens, parce qu'il y a des gens qui vivent vraiment des difficultés qui ne leur permettent pas de vivre contentement. Donc c'est vrai que au-delà du logement privé, que je voyais que ça à la base, j'ai quand même m'intéressé au logement social, où je voyais un certain nombre de personnes avaient des difficultés et que il fallait en prendre compte, et que notamment les pouvoirs publics étaient la meilleure réponse pour ça, et c'est ça en fait le sens de mon engagement. Donc voilà, Cédric, on arrive à la fin de notre podcast. Donc je tiens à te remercier car voilà, tu as dégagé du temps pour qu'on fasse ce podcast. Et ça a vraiment été un très bon moment pour moi d'échanger avec toi. Donc est-ce que tu as un petit mot à dire à Génération Engagée? Parce que voilà, tu as été avant aussi Génération Engagée pour nos jeunes qui vont s'engager dans les futurs mois et qui sont engagés actuellement. Qu'est-ce que tu peux leur dire comme petit conseil en tant qu'ancien Génération Engagée?
Bah écoute, d'abord merci pour ton invitation aussi. C'était un moment très agréable de discuter comme ça sur tous ces sujets qui sont importants pour la région bruxelloise et pour les gens qui y vivent. Je dirais peut-être, d'abord engagez-vous, n'ayez pas peur de vous engager, n'ayez pas peur d'avoir vos opinions, de les dire, parce que parfois quand on est jeune, qu'on entend toutes les personnes qui sont là depuis plus longtemps, les cadras, les quinquas, les sexagénaires, parfois même plus âgés, qui ont leur opinion, qui disent les mêmes choses depuis des années. Faut parfois aussi oser amener un vent de fraîcheur, faut parfois aussi oser penser autrement et surtout écouter autour de vous. Écoutez ce que disent les autres jeunes, ce que vivent les autres jeunes et ne restez pas cantonnés dans les jeunes qui sont comme vous dans le même auditoire, dans les mêmes conditions socio-économiques, mais essayez aussi de trouver des jeunes dans d'autres milieux que le vôtre et essayez d'aller voir ce que vivent ces jeunes-là pour pouvoir essayer de proposer des choses qui puissent améliorer le quotidien de ces jeunes-là.
Merci Cédric.
Merci à toi aussi.